Crayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et cette émission, elle n'est pas en direct. Et cette semaine, on va parler du vélo et d'une vie alignée. Mon invité est en duplex, comme on dit, au téléphone. Donc vous êtes sur Cause Commune, c'est le moment de Rayon Libre. Merci de votre écoute. Ne soyez pas timide, partagez ces productions, likez, commentez sur les réseaux sociaux. Ça nous aide à faire émerger ce programme. Merci aussi pour vos dons. Ça nous aide aussi, vos dons, parce que notre radio est une radio associative. Souvenez-vous, la semaine dernière, pour la première émission de l'année, je ne savais pas trop comment formuler mes vœux pour cette nouvelle année. J'avais une bonne excuse, l'enregistrement avait eu lieu le 24 décembre. Quand on est plutôt concentré sur l'échéance très très short terme, ce soir et demain, pas tellement concentré sur « et l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ?» Entre-temps, j'ai trouvé quoi vous souhaiter, quoi nous souhaiter pour 2026. Et sans surprise, je nous souhaite une année avec une bonne dose de vélo. Et ça veut dire quoi une bonne dose de vélo? Eh ben ça dépend, mais je crois que la bonne dose de vélo, globalement, c'est un petit peu plus que prévu, un peu plus que raisonnablement envisagé. Des vœux qui vont à l'inverse de ces bilans Strava que l'on voit fleurir en fin d'année, X jours à pédaler, Y kilomètres parcourus, Z mètres d'ascension, ces performances affichées comme un tableau de chasse, ces chiffres bruts n'ont à mon sens aucun sens, et même s'ils affichent un pourcentage de progression, plus de X% de sortie ou Y% de kilomètres, je vous promets, moi, je m'en fiche de vos performances. Vous souhaitez, nous souhaitez une bonne dose de vélo, soit un peu plus que raisonnablement prévu, c'est émettre le vœu que si dans votre municipalité, le plan vélo de 2026, c'est de livrer 100 km de pistes cyclables, et alors j'espère qu'ils en livreront 101, 105 ou 110 km. Si dans votre entreprise il y a un plan de mobilité durable qui veut mettre en selle 12% des salariés, alors j'espère que ce sera 13 ou 14% de convertis. Si le gouvernement, on peut toujours rêver, voulait mettre 100 en financement pour développer le vélo, alors souhaitons qu'il mette 101, 102, 120. Et vous qui ne pédalez que pendant les vacances, je vous souhaite d'être sur un vélo. Si pendant quelques week-ends en plus, et vous qui pédalez le dimanche en peloton, je vous souhaite de trouver l'intérêt à pédaler pour aller au boulot, d'oser même par pourquoi pas. Et vous qui ne pédalez que pour aller au boulot, j'aimais le souhait que vous trouviez le temps et l'envie d'aller explorer votre environnement à vélo pour aller au cinéma, dîner chez des potes, faire votre vie, quoi. Bref, je vous souhaite pour 2026 un peu plus de vélo que prévu. Et s'il neige, comme aujourd'hui à Paris, que vous estimez que pédaler n'est pas la meilleure solution, faites comme moi. Redécouvrez le plaisir d'une marche de 30 minutes pour vous rendre au boulot. C'est bien aussi, la marche. Et mon invité du jour, est-ce que ses vœux lui parlent? Est-ce qu'il a prévu d'être sûr ou autour d'un vélo plus ou moins en 2026 qu'en 2025? Et quelle est la place du vélo dans sa vie à lui? Est-il envahi par le vélo? Est-ce que trop de vélo nuit au vélo? Cette dernière question, je la garde pour un prochain édito. Et en tout cas, explorons avec Xavier Bonne-Orgne, j'espère que je prononce bien, la place qu'il fait au vélo dans sa vie et surtout quelle est la part du vélo égoïste et sa part de vélo altruiste. Bonjour Xavier, merci infiniment d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Alors je prononce bien déjà la première question, je prononce bien votre nom de famille, Bonne-Orgne.
Tout à fait.
Bon, je suis trop bon. Xavier, quand je vous souhaite à vous pour 2026 une bonne dose de vélo, c'est-à-dire une dose un peu plus importante que raisonnablement prévue, ça veut dire quoi concrètement pour vous ce vœu?
Ça veut dire que le vélo permet beaucoup de choses et donc moi j'espère que je vais encore continuer à me faire plaisir sur le vélo et j'espère que le vélo va créer des rencontres, va créer des histoires. Et puis moi, je souhaite que tout le monde puisse, peu importe sa discipline de vélo, peu importe ses capacités, puisse se faire plaisir sur un vélo en 2026.
Ce serait plutôt pas mal. Et si je m'adresse aux professionnels, vous êtes donc en charge aujourd'hui actuellement, en charge de la communication institutionnelle et du développement durable au sein d'une université. Une petite dose de vélo en plus, ça voudrait dire quoi dans votre métier et dans les différentes missions que vous portez?
Alors évidemment, je travaille effectivement dans une université, donc aujourd'hui on a dans cette université beaucoup d'étudiants qui se déplacent déjà à vélo,
ouais.
Mais le travail n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail pour promouvoir la mobilité, les mobilités douces en général, mais ouais. Le vélo en particulier, et notamment auprès des personnels de cette université et dans le cadre des déplacements domicile-travail. Voilà, beaucoup de travail à faire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que dans une université, il y a des étudiants, mais il y a aussi beaucoup de corps enseignants et de personnes qui y travaillent, des adultes qui sont installés dans la vie et qui ont potentiellement une voiture assez facile d'accès.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ce sont des personnes qui habitent forcément un petit peu éloignées de cette université. On n'est pas du tout sur des modes de vie étudiants.
Ouais.
Et donc, ces personnes ont besoin de se déplacer. Alors, voilà, parfois c'est simplement 5-10 kilomètres, parfois c'est beaucoup plus. On a déjà des personnes qui se déplacent à vélo, plus éventuellement le train. Et, mais on a encore, comme dans tout domaine et toute profession, des personnes qui se déplacent en voiture. Et voilà, il y a de la pédagogie à faire, il y a de la sensibilisation à faire. Moi, je pratique beaucoup le vélo, mais j'admets que c'est pas simple de se mettre au vélo pour faire ses déplacements à domicile-travail. Et donc, il faut trouver les bons mots, il faut trouver le bon vélo, il faut trouver de quoi s'équiper. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour permettre que cette mobilité douce, elle se transforme.
Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que et on l'oublie souvent, nous tous qui faisons du vélo depuis longtemps et qui sommes au-delà d'être convaincus, qui sommes à l'aise sur la machine et qui savons comment faire, quoi. C'est ce que vous venez de dire, se mettre au vélo au quotidien ou pas d'ailleurs, mais c'est pas forcément si simple que ça. Hein.
Effectivement, et d'ailleurs dans une précédente expérience professionnelle, j'ai été référent mobilité dans mon entreprise et je faisais de la formation justement pour des personnes qui voulaient justement se mettre au vélo pour venir au travail. Et en fait, on n'a pas idée du nombre de freins qui se présentent à ces personnes-là. Donc en fait, c'est l'équipement, c'est le choix du vélo, c'est le choix de la bonne route pour se rendre au travail. C'est le réglage du vélo, voilà, c'est tout un tas de choses qui font que, à la fin, on enfourche son vélo et on commence à faire le premier trajet.
Ouais. Et alors vous, moi je m'adresse à vous, là je m'adresse à Xavier, le citoyen, le cycliste. Petite dose de vélo. Vous êtes quel type de cycliste aujourd'hui? Vous pratiquez toutes les formes de cyclisme?
Oui, alors moi, c'est vrai que au-delà de la mobilité du quotidien, je suis un cycliste de longue date, parce que j'ai 37 ans maintenant, et je pratique le vélo depuis que je suis adolescent, un peu sous toutes ses formes, route, VTT, gravel, et j'ai beaucoup pratiqué la compétition.
Oui.
Voilà, et puis des formats aussi, le voyage, parce que le vélo permet d'aller très loin en France et dans certains pays, et donc j'ai beaucoup voyagé aussi à vélo, effectivement.
Et j'ai cru comprendre que vous vous êtes mis aussi à la longue distance.
Et tout à fait, et je me suis mis à la longue distance il y a quelques années, et j'ai réalisé la Race Cross France, qui est un petit peu le Graal en la matière.
Oui.
À l'été 2025, donc voilà, très 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 belle expérience. Et effectivement, la longue distance, c'était un format que je ne connaissais pas du tout, parce que quand on est compétiteur, on fait plutôt des formats assez courts, même si c'est assez intense.
Vous faisiez quoi comme type de compétition en cyclisme plus jeune?
Bien, à la Fédération française de cyclisme, hein, voilà, des courses sur route,
de la route,
classiques, que tout le monde connaît un petit peu.
Les courses de clocher.
Voilà, c'est ça exactement. Alors, j'aime pas trop ce terme de clocher, mais
oui, mais c'est
parfois c'est en zone industrielle, parfois c'est des belles boucles, hein, aussi. Oui. Ça permet de valoriser un peu le territoire. Mais effectivement, j'ai couru à un certain niveau de l'adolescence jusqu'à mes jeunes années, autour de la vingtaine, la trentaine, quoi. Ouais. Voilà.
Vous diriez que vous êtes tombé un peu dans la marmite du vélo. C'est quoi? C'est la famille qui vous a mis au vélo? Comment est-ce que le vélo rentre dans votre vie à vous?
Alors moi, assez jeune, moi j'ai un papa qui fait déjà pas mal de courses à pied, donc je suis quand même dans un milieu un peu sportif.
Ouais.
Et puis le vélo, je dirais que je m'y mets vraiment autour de 14-15 ans, parce que voilà, on commence à faire des sorties un peu plus longues avec des amis. Et puis l'histoire, en fait, elle s'accélère assez rapidement parce que moi, à l'époque, je fais beaucoup de basket à haut niveau.
Ouais.
Et puis, je ne suis pas sélectionné pour passer dans un sport études basket.
D'accord.
Et donc, j'arrête le basket entièrement du jour au lendemain. Ça fait quasiment 10 ans que je fais du basket et je prends une licence, en fait, une licence pour courir
en cyclisme,
club de vélo en cyclisme.
Okay.
Voilà, exactement. Et donc, l'histoire, elle commence un peu là.
Du parquet au goudron.
C'est ça, ouais. Exactement, du parquet au goudron. Ouais, avec des premières courses difficiles, mais de très bons souvenirs.
Et oui, j'imagine, parce que c'est pas tout à fait le même effort. Et puis si en basket, on se fait mal ou on est cuit, on se met sur le banc de touche. À vélo, quand on se fait mal ou qu'on est cuit, il faut quand même rentrer, quoi. On est quand même loin encore de l'arrivée du village. Dans l'édito, j'invite les différents, les auditeurs, les auditrices et finalement les cyclistes et tout le monde à mettre un peu plus de vélo et à pourquoi pas explorer d'autres pratiques du vélo. Vous, aujourd'hui, il y a une pratique du vélo que vous n'avez jamais faite et que vous vous dites, en 2026, j'essayerai bien, j'en sais rien, de la piste, du BMX, du VTT, de la DH, peu importe, du vélo artistique. Il y a une discipline que vous ne connaissez pas et vous vous dites, en 2026, j'aimerais bien essayer.
Très bonne question.
Enfin, une bonne question après 10 minutes de discussion.
J'ai exploré pas mal de types de vélos. Le vélo pour aller au travail, le vélo compétition, le vélo voyage.
Ouais.
Ma compagne m'a demandé la dernière fois si j'avais déjà essayé de mettre sur un vélo, un monoroue.
Oui, un monocycle.
Peut-être qu'un jour, ce sera une expérience. Là, j'avoue que j'ai pas encore essayé.
D'accord. Peut-être, pourquoi pas le monocycle. On avait fait une émission avec l'organisateur des championnats du monde des monocycles. Je sais plus quel numéro. Je remettrai la référence dans la fiche de l'émission. Comme ça, vous pourrez l'écouter. Je sais aussi dans votre amour ou en tout cas l'intérêt que vous avez pour le vélo, vous avez aussi un engagement associatif. C'est quoi? C'est de l'esprit militant? C'est autre chose? C'est quoi cet engagement associatif dans le monde du vélo?
Oui, effectivement. Alors à plusieurs titres. En fait, il se trouve que dans le cadre de mon activité de cycliste, un jour j'ai découvert une association qui s'appelle la Cyclo pour le climat.
Oui.
La Cyclo pour le climat, c'est une belle aventure de cycliste qui se monte en 2000, il y a 4 ans, autour de 2021. Et donc, c'est quelques cyclistes qui disent que ce serait bien un jour de faire des événements cyclistes pour promouvoir le changement climatique, promouvoir en tout cas sensibiliser au changement climatique.
Oui, parce que la promotion, on n'en a pas besoin, mais plutôt une sorte de ralentissons ce changement climatique.
Voilà. Oui. Et comment on le ralentit? Eh bien, notamment à travers les mobilités douces et le vélo, puisque le vélo est un levier d'action assez important pour éviter de consommer des combustibles fossiles, oui, de prendre sa voiture. Et donc, l'idée naît comme ça. Et puis, le premier événement, la Cyclo pour le climat, se fait en septembre.
2026
Il y a eu 2022, 2023, 2024 et 2025.
D'accord.
Le premier a lieu en 2022, en septembre 2022. Et on est 40 cyclistes avec nos maillots aux couleurs de ce qu'on appelle les warning stripes. Donc les warning stripes, c'est les bandes de couleurs du réchauffement climatique.
Qui vont du bleu au rouge, si je me souviens bien.
Exactement. Ouais. Exactement. Et cette aventure, elle naît comme ça entre 40 cyclistes. Et les années d'après, on réitère l'opération. Et aujourd'hui, en 2025, on a 4 événements différents dans 4 villes.
Ouais.
Donc Toulouse, Angers, Saint-Malo et Lyon. Voilà, donc on est assez fiers de cette aventure qui s'est montée. On est une petite association, il y a à peu près une dizaine de personnes. Je passe un petit coucou d'ailleurs à Michel Jardin, qui est le fondateur de cette association et qui nous a lancé dans cette aventure. Et en fait, à Lyon, l'année dernière, on était on était 150 au départ.
Oui.
Donc, on est très fiers de cet événement parce que ça permet à la fois de promouvoir et de le vélo comme un levier d'action contre le changement climatique. Et puis, c'est vraiment des belles rencontres. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire des événements cyclistes qui permettent de rassembler des gens sur un vélo de 7 à 77 ans. L'année dernière, à Lyon, le plus petit participant a fait 100 km, il avait 10 ans.
Oui.
Le plus vieux avait 75 ans. Et donc, c'est vraiment des événements ouverts à tous. Quelle que soit sa pratique, on a des vélos cargo, on avait des vélos assez vieux, des vélos plus récents. C'est vraiment l'idée, c'est d'ouvrir le vélo pour tout le monde et que ce soit pas juste un événement sportif ou compétitif.
Ouvrir le champ des possibles. On reviendra en deuxième partie de cette émission sur cette cycloclimat, parce que je suis assez curieux. J'ai envie de savoir, bah, finalement, concrètement, vous roulez, mais concrètement aussi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous levez des fonds? Est-ce que vous faites de la sensibilisation, de l'éducation? Mais on abordera ce sujet en deuxième partie de l'émission. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Rayon Libre qui, finalement, est, je l'espère et je me le souhaite, peut-être même que je le fantasme, votre petite dose hebdomadaire d'écoute des autres qui font du vélo ou qui font le vélo. En tout cas, pour moi, Rayon Libre remplit presque ma dose hebdomadaire de curiosité pour comprendre ceux et celles qui pédalent ou pas. J'aime ce moment, comme celui du lancement de la pause musicale, je me prends pour un DJ, et puis j'aime autant vous faire découvrir mes rencontres, mes invités, que vous faire découvrir ces morceaux de musique que j'aime, qui m'accompagnent quand je prépare ces émissions, qui m'accompagnent quand je pédale sur mon home trainer. Je vous propose d'écouter aujourd'hui Eima de Bon Iver. On se retrouve dans quelques minutes avec Xavier Bonnehorgne, et je vous dis à tout de suite. Nous sommes toujours avec Xavier Bonnehorgne. On évoque la place du vélo, la bonne dose de vélo dans ce Rayon Libre. Le vélo pour soi et pour les autres. Deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.fm. Juste avant d'écouter Bon Iver, on évoquait votre engagement associatif, Xavier. On est autour de la place du vélo dans nos vies. Revenons sur cette action, la cyclo pour le climat. En 2025, 4 événements à Lyon, Toulouse, Angers et je ne sais plus quelle est l'autre ville. Mais partir... Pardon ?
Saint-Malo,
voilà. Et partir rouler, c'est bien, mais c'est quand même une démonstration, par exemple. Mais avant, pendant, après, qu'est-ce que vous faites? Comment vous portez vos messages?
Alors, de deux façons. La première chose, c'est que généralement, au départ de ces événements, il y a des stands, comme dans tout type un peu d'événements, avec souvent de la sensibilisation autour du changement climatique. Donc, par exemple, à Saint-Malo, ça va être de la sensibilisation sur la montée des eaux, la montée du niveau de la mer. À Lyon, l'année dernière, on a eu aussi des personnes qui sont venues pour parler du territoire et notamment de la Dombe, puisque l'événement La Cyclo pour le climat à Lyon a eu lieu sur un territoire qui s'appelle les Étangs de la Dombe,
oui.
dans le département de l'Ain. Et ces Étangs de la Dombe sont des territoires de pêche avec des étangs donc, qui sont véritablement menacés par la sécheresse.
D'accord.
Et donc, voilà, on a eu des discours, des présentations, notamment par une chercheuse qui travaillait sur ce sujet et qui nous a alertés sur le changement climatique et ses conséquences sur la sécheresse de ces étangs.
Oui, et au-delà de ne plus pouvoir pêcher dans ces étangs, c'est tout un écosystème, tout l'écosystème local qui, s'il n'y a plus d'eau, et toute la faune et la flore qui, tout d'un coup, va disparaître.
Exactement. C'est vraiment les Étangs de la Dombe, c'est très connu pour être un havre de biodiversité,
oui.
Voilà, au niveau des oiseaux notamment. Et donc effectivement, la sécheresse touche véritablement ces écosystèmes, effectivement.
Et donc après, il y a une sorte d'accompagnement. Au-delà, il y a une sorte donc de prise de conscience. Et après, vous, votre action aussi, c'est un accompagnement vers le changement. Alors le vélo est un des moyens pour changer, mais vous avez aussi vous portez d'autres messages sur. Essayer d'avoir une vie un peu plus sobre globalement.
Oui, effectivement. Alors le deuxième symbole, effectivement, c'est que les cyclistes qui roulent ce jour-là, le jour de l'événement, portent le maillot avec les fameux warning tracks.
Oui.
Donc il faut savoir que ce maillot est fabriqué justement à base de plastique recyclé. Donc je cite la marque, hein, c'est
oui.
Vélor. Voilà, cette marque a été justement cofondée par le président de notre association, Michael Jarvin.
D'accord.
Et donc voilà, il y a quand même aussi cette idée de porter un message autour de le vélo tout ce qu'il a aussi comme conséquence, parce que
oui.
le vélo a pratiqué d'une certaine façon, a aussi des conséquences sur les ressources, etc.
Bien sûr.
Il y a un message aussi autour de la fabrication des vêtements du cycliste.
Oui, oui, ou les pneus, ou l'usure des plaquettes de frein ou des patins, etc. etc.
Exactement,
oui.
C'est important. Et puis, l'autre message qu'on essaie de véhiculer, c'est quand même que autour d'un événement sportif, on peut aussi se rassembler et que cette lutte contre le changement climatique, elle va induire, elle va nécessiter qu'on soit collectif, qu'on
oui.
soit collectif, peu importe, disons, son profil. Donc c'est un peu ça, là, c'est peu importe son profil de cycliste, jouons collectif et essayons d'avancer ensemble. Alors là, pour le coup, c'est avancer ensemble pour réaliser les 100 km.
Oui.
C'est pas facile pour tout le monde. Personne, voilà, il y a des gens qui n'ont jamais fait 100 km.
Mmh.
Et puis quand on arrive au bout de cette aventure, on voit à quel point, on observe à quel point on a pu ensemble parvenir à faire ces 100 km. Et moi, quand je vois un enfant de 10 ans terminer 100 km avec ses parents, soutenu par le collectif, ben voilà, c'est ça la lutte collective, c'est ça le rassemblement de cyclistes. Enfin,
ouais.
Moi, c'est ça aussi que le vélo doit raconter.
Oui, vous vous dites qu'il y a encore de l'espoir. Pour revenir un peu sur le thème de l'émission, les vœux, la place du vélo, une bonne dose de vélo. En première partie, vous m'évoquiez très rapidement votre compagne. J'ai envie quand même de vous poser la question. Est-ce que ça vous arrive, vous, parfois, de vous dire que ouais, le vélo, finalement, ça prend quand même un peu trop de place dans ma vie, ou un peu trop de place, ou un peu trop de temps?
Alors, je fais partie de ces cyclistes dans lesquels les habitations sont beaucoup prises par la place du vélo, hébergent beaucoup de vélos dans le garage, dans l'appartement.
Ouais.
Mais on essaye de lui faire sa place et voilà, on y parvient. Mais j'ai une compagne qui évidemment a aussi pris le virus.
Donc, que vous lui avez transmis?
Exactement, oui, je pense que je n'y suis pas pour rien et on a fait de beaux voyages ensemble en Espagne, on a fait la Bretagne, le Jura, voilà, on a fait des belles traversées et il y a vraiment des beaux paysages en France à faire à vélo. Oui.
Et donc c'est intéressant, ça veut dire que votre compagne, elle pédalait ou pas, peu importe avant, mais en tout cas en vous rencontrant et en vivant avec un cycliste entre guillemets acharné, convaincu, altruiste, etc., elle s'est mise au vélotourisme et elle aime ça.
Exactement, elle a rapidement acheté un premier vélo pour faire des toutes petites sorties et puis je crois qu'après... Voilà, petit à petit, progressivement, on évolue, on prend goût au vélo. D'ailleurs, rapidement, on prend goût au vélo aussi pour en fait se déplacer au quotidien. Ouais. Et puis ensuite, le voyage. Alors, le voyage, c'est pas un pas simple à franchir, c'est un message que j'aimerais passer. Mais je pense qu'une fois qu'on constate qu'on peut faire des centaines de kilomètres à vélo et traverser toute la journée des paysages magnifiques, je crois que on fait un deuxième voyage, un troisième voyage, un quatrième, et voilà.
Pour le coup, ce qui serait intéressant, mais je pourrais lancer l'invitation, c'est que vous proposiez à votre compagne de venir nous raconter son témoignage à elle sur comment elle s'est convertie au voyage à vélo. Alors, elle va nous dire que c'est grâce à Xavier ou avec Xavier, mais surtout, elle, comment elle le vit, parce que je suis assez convaincu que ce qui est intéressant et ce qui va convaincre les autres, c'est ceux qui, au fait, ne sont pas nés dedans et ne sont pas tombés dans la marmite tout petit et qui ont fait, qu'on fait ce changement un peu de mentalité. Donc, je vous propose de lui proposer de venir nous raconter un peu son expérience et son histoire du vélo. On arrive vers la fin de Rayon Libre. Vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes toujours avec Xavier Bonnehorgne, un cycliste qui cherche toujours à s'ajouter une petite dose de vélo dans sa vie, dans son quotidien. J'en connais un autre qui est en précis, qui a besoin d'une dose de vélo quotidienne. C'est Abel Guggenheim. Le vélo le nourrit intellectuellement et il a l'élégance et la générosité de partager cette nourriture. On va écouter la chronique d'Abel Guggenheim avec Gourmandise. Abel, c'est à toi.
Bonjour, je vous parle d'une vidéo postée sur le réseau X. Un cycliste roule sur une piste cyclable aménagée en bordure d'un large boulevard au milieu duquel circule un tramway. L'aménagement est récent puisque la dernière vue visible sur Google Street View date de septembre 2024. Il y avait alors deux voies de circulation générale et une file de stationnement entre lesquelles une étroite bande cyclable était située juste dans la zone d'ouverture des portières. Dans la vidéo diffusée ces jours-ci, il ne reste plus qu'une seule des deux voies de circulation, il n'y a plus de file de stationnement et l'étroite bande cyclable a été remplacée par une large piste bidirectionnelle. Dans un message précédent, le même cycliste se félicitait d'ailleurs de cette nette amélioration. Mais cette fois-ci, il est très mécontent. Il s'arrête face à une traversée permettant aux piétons de rejoindre une rue de l'autre côté. « Il y a un passage piéton, mais je ne suis pas censé l'utiliser. Je suis censé avoir une vraie voie pour rejoindre la rue qui est là-bas. Mais je ne l'ai pas. » Au nom de quoi décrète-t-il qu'il est censé avoir une vraie voie ? En fait, il réagit exactement comme les automobilistes à qui on interdit ou rend très difficile de circuler au plus court. Le fameux slogan « Mon quartier n'est pas un raccourci » qui n'accepte pas qu'on puisse les empêcher de faire ce qu'on autorise aux cyclistes et piétons. Ce message attire rapidement de nombreux commentaires. Beaucoup observent sagement que, de même qu'on contraint parfois les véhicules motorisés au bénéfice des piétons et cyclistes, il n'est pas illégitime à certains endroits de faire de légers détours aux cyclistes en ne favorisant que les piétons, et que de toute façon, il lui est possible de ne pas faire de détour en descendant de son vélo sur quelques mètres et en le poussant. Ce à quoi il répond multiplement et imperturbablement « ça s'appelle être piéton ça !» Des solutions existent pour que les cyclistes restent cyclistes, il suffit de les mettre en œuvre. Il montre ensuite un deuxième endroit avec une rue de l'autre côté du boulevard qu'on ne peut rejoindre par aucun passage, même pour les piétons. Il y en a bien un très proche, mais il existe. J'ai pas envie de me mêler aux piétons, de les déranger en allant là-bas sur le passage piéton. En fait, à cet endroit, on voit qu'il y a deux rues séquentes, d'un côté puis de l'autre, à moins de 50 mètres de distance, formant une espèce de baïonnette avec l'avenue principale. Une traversée n'a été aménagée qu'à une seule de ces deux intersections proches, ce qui occasionne au pire un détour d'environ 50 mètres pour les piétons, et pour les cyclistes acceptant de descendre de leur vélo, de 80 mètres pour les véhicules, motorisés ou non. La détestable image d'enfant gâté jamais content qui nous colle au basque, elle ne tombe pas du ciel. Elle est engendrée par ce type de message venant de cyclistes qui portent ainsi tort à la cause qu'ils pensent, sans doute sincèrement, défendre. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel. Xavier, j'ai une dernière question pour vous. Vous parlez de la cyclo pour le climat. Comment on vous retrouve ? Il faut aller sur Internet, vous avez un site web. Comment est-ce qu'on participe ? En 2026, il y a un rassemblement à Marseille, à Paris, à Lille, à Tourcoing, à Strasbourg.
Oui, alors tout simplement sur les moteurs de recherche, vous pouvez effectivement taper la cyclo pour le climat et vous tomberez sur notre site Internet. On aura nos quatre lieux, donc Saint-Malo, Toulouse, Angers et Lyon, et puis peut-être un événement parisien, et puis voilà, j'espère que qu'il y aura encore des belles histoires. Il faut savoir qu'à Lyon, l'année dernière, nous avons des couples qui se sont formés lors de ces événements. Donc voilà, ça montre aussi que le vélo est plus que rassembleur parfois.
Et plus qu'un site de rencontre. Merci beaucoup. Et bien, auditeurs, auditrices parisiens, parce qu'on est quand même une émission parisienne qui est diffusée sur 93.fm, sur la bande FM parisienne. Auditeurs, auditrices parisiens, levez la main et organisez et aidez à organiser la cyclo pour le climat. En tout cas, auditeurs, auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, le vélo est une chance. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Xavier Bonnehorgue, merci pour votre temps et ce partage. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il est 14h30 lors de la première diffusion de cette émission. La bise et à la semaine prochaine.